Bonjour. Eh bien, nous allons continuer notre étude sur la lettre aux Hébreux. C'est long, hein? On en est qu'au chapitre 2. Donc, on prend nos Bibles, chapitre 2, versets 13 et 14 pour aujourd'hui. Alors, je lis Hébreux, chapitre 2, versets 13 et 14. La Bible dit encore, c'est Paul qui cite donc les Écritures, « Je me confierai en lui, et enfin, me voici, moi et mes enfants, que Dieu m'a donnés. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libéré tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Amen. Alors, Paul se réfère ici à une prophétie d'Ésaïe qu'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 8, verset 17-18. Il est dit, je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob, je me confie en lui. Me voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servons de signes et de présages en Israël de la part de l'Éternel, le maître de l'univers qui réside sur le mont Sion. Alors, quand Ésaïe dit cela, il parle de ses propres enfants. C'était un moment où les deux maisons d'Israël et de Juda cherchaient des appuis, des alliances charnelles, et c'était surtout la tribu de Juda qui cherchait. Ésaïe disait que ses enfants étaient donnés comme un signe, comme des prodiges en Israël de la part de Dieu. Quel signe était-il en réalité? Ses fils représentaient le résidu qui allait revenir. Un des deux fils allait représenter le résidu de ceux qui allaient revenir. Et vous pouvez lire ça dans Ésaïe 7:3, vous irez le lire. Et l'autre de ses fils représentait la délivrance de ce résidu. Donc le prophète et ce résidu déclarent qu'ils s'attendaient à l'Éternel qui cache sa face à la maison de Juda. Ésaïe, donc, il donne ici un motif de sa confiance, ses enfants, que Dieu lui a donnés et avec lesquels il se présente. Mais dans le texte aux Hébreux, dont je pense que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, le Saint-Esprit révèle que les paroles d'Ésaïe ont Jésus-Christ en vue, Emmanuel. En fait, le prophète Ésaïe et ses enfants ne sont que des figures de Christ qui se confient dans son Père et dans ses enfants, avec ses enfants. Prions le Seigneur. Jésus, je te demande de bénir mes frères et sœurs et qu'ils saisissent comment est-ce que les apôtres s'inspiraient des Écritures pour pouvoir expliquer combien tu es grand. Et combien nous aussi nous devons nous servir des Écritures pour pouvoir magnifier ton nom. Dans le nom de Jésus, je te prie, mon Dieu. Amen. Donc Jésus s'est abaissé au niveau humain, et il se confiait en Dieu, son Père illimité. Vous trouvez ça dans le psaume 16, verset 1. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous voyons Jésus qui se place à la tête du résidu, c'est-à-dire de ceux qui sont avec lui et qui se confient en Dieu, c'est-à-dire nous, enfin nous, pas moi et ma communauté, nous les chrétiens. Et Jésus nous présente au Père Céleste comme ceux qui lui ont été donnés. Jésus dit, hein, ceux que j'ai gardés, ceux que tu m'as donnés, personne ne s'est perdu sinon le Fils de la perdition. Et il s'associe à eux, il les associe à lui. Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Est-ce que vous comprenez bien ça? Jésus est le chef de notre salut. Il s'est mis à part et il nous a mis à part avec lui. et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. En fait, nous sommes, Jésus et nous, en fait une sainte compagnie de témoins devant Dieu, mais aussi devant les gens. Et le verset 14 place les êtres que nous sommes devant une autre merveille de la grâce divine. Jésus a voulu devenir le sauveur de ceux que Dieu avait mis à part, c'est-à-dire de ses frères. Nous avons été déjà choisis dès avant la fondation du monde, nous dit la Bible. Et pour ce faire, Jésus a pris part à la nature humaine. Il a pris part au sang et à la chair, à notre nature. Notre condition humaine, que nous avons hérité de nos premiers parents, il a voulu y participer. C'est pas obligé, hein, mais il l'a fait. Lui, qui était Dieu, le seul Dieu, qui est devenu la parole de Dieu. La première création de Dieu, c'était de parler. On a vu ça dans nos études précédentes. Et puis ensuite, cette parole est devenue chair. Je crois que c'est Jean chapitre 1, verset 14. Pour nous, c'est naturel, on est né ici, on vit ici, c'est notre lot. Mais lui, c'était pas du tout son lot, c'était pas du tout sa condition naturelle. Il est de toute éternité Dieu. Et le voilà qui vient participer à notre nature humaine. Et tout cela pour pouvoir, en tant qu'homme, comme homme, entrer personnellement dans la mort. C'est-à-dire dans la séparation d'avec son Père. C'est pourquoi sur la croix il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que là, il n'était plus qu'un simple homme. Il est entré dans la mort. C'est quelque chose d'inouï. Il est entré dans la mort à notre place pour pouvoir nous délivrer de cette condition de mortel. Il est descendu dans la mort afin d'être d'enlever à la mort sa puissance. Dans Romains chapitre 5, verset 12, il nous est dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » La mort est entrée dans le monde à cause de notre péché, enfin, à cause du péché de nos parents, mais aussi à cause... nous commettons aussi nous-mêmes le péché. En péchant, en se séparant volontairement de son Créateur, l'homme s'était placé sous l'empire de la mort. Dieu s'était retiré. Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est ce qui est arrivé. Adam et Ève ne sont pas morts le jour où ils en ont mangé, le jour où ils ont consommé, le jour où ils ont péché. Non. Mais ils sont morts ce jour-là. C'est-à-dire, ils ont été séparés de Dieu. Dieu s'est séparé d'eux et il les a chassés du paradis. Et puis maintenant, débrouillez-vous. Et c'est la condition dans laquelle l'humanité se trouve aujourd'hui. Les gens disent, oui, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ça. Mais il n'y a pas de Dieu. Dans le sens, Dieu s'est séparé de nous, nous a laissé tomber. Maintenant, le Dieu de ce monde, c'est Satan. Et pour nous, personnellement, nous devons revenir à Dieu. Personnellement, c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire de masse, de peuple, de pays. Non, non, c'est nous, personnellement, qui devons nous rapprocher de Dieu afin de vivre. Mais c'est le diable qui est le prince de ce monde. Le diable avait poussé l'humanité, enfin Adam et Ève à l'époque, et c'est ainsi que la mort, le pouvoir de la mort, est devenu l'acquisition du diable. La mort, c'est un épouvantail qui se présente toujours à nous, et qui se présente devant tout être humain. Ça me fait doucement sourire quand je vois des snobinards qui viennent nous dire « Ah, oh, moi, j'ai pas peur de la mort. Non, non, j'ai pas peur de la mort. J'ai juste peur de souffrir, mais je voudrais pas mourir. Non, la mort, je voudrais pas souffrir, mais la mort, ça me fait pas peur. » Oui, bon, ils savent pas de quoi ils parlent. Ils savent pas de quoi ils parlent. C'est effarant d'entendre des choses comme ça. Il y a un mot pour décrire ça. Attendez, je vais essayer de vous le retrouver. Il y a un mot pour décrire ça. Si je vous le retrouve, je vous le donne. Attendez. C'est pas facile parce que j'ai tellement de notes à gauche, à droite et partout que. Mais je vais vous trouver. Voilà, c'est un mot assez compliqué. C'est l'ultra-crépidarianisme. C'est-à-dire, c'est. L'ultra-crépidarianisme, c'est donner son avis sur des sujets dont on n'a pas connaissance. Oh, j'ai pas peur de la mort. Ben, évidemment, ils ne la connaissent pas. Ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte et ils ne veulent pas y penser. L'ultra-crépidarianisme est l'habitude qui consiste à donner des avis et des conseils sur des questions qui échappent aux connaissances de la personne qui les émet. C'est donc le comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets sur lesquels on n'a pas de compétences démontrées. Alors, les gens qui disent « Oh non, je n'ai pas peur de la mort », ta 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 ta, c'est parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est tout. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. La mort et la condamnation est une servitude à laquelle chaque personne est assujettie. Même dans l'ancienne alliance avec Dieu, il y avait une alliance qui avait été faite avec les Juifs. La mort, elle était redoutée. Vous allez lire Ésaïe 38, vous allez voir. On y voit là un homme sincère face à la mort. Ben, elle n'amène pas large. La mort ouvre le Sheol. C'est un lieu d'obscurité tout à fait. Tout est fini là. Ce qui fait la joie, c'est terminé. Il n'y a plus. Et Job décrit la mort comme le roi des terreurs. Job 18-14. Par contre, dans la nouvelle alliance que nous avons avec Jésus-Christ en son sang, tout est différent. Si vous avez reçu Jésus en vous, vous êtes repenti sérieusement de vos péchés, et si vous avez été baptisé correctement, c'est-à-dire le mot baptême signifie immersion dans l'eau, si vous avez reçu son esprit, eh ben vous pouvez dire avec Paul, mourir mais un gain. Philippiens 1, 21-23, bon, on peut le lire si vous voulez, Philippiens 1, 21-23, voilà ce que Paul dit. Il dit, Christ est ma vie, mais mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Alors, il est tiraillé parce qu'il sait qu'il est utile aux gens, mais en même temps, bah, il aimerait bien se tailler. Hein. En fait, c'est le lot de tous les chrétiens. Tous les chrétiens aimeraient tous. Un véritable chrétien, il se réjouit de s'en aller, parce que cette terre, c'est un furoncle. Bon, encore quand on vit dans un beau pays comme la France, la Suisse, la Belgique, c'est des pays magnifiques, mais ça, c'est le bon côté de la planète. La grande majorité sur cette terre vivent véritablement un enfer, et même maintenant, ici en France, ça commence à devenir difficile, hein, C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Alors bon, certains incroyants, qui sont particulièrement endurcis et inconscients, insouciants, pour pas dire pire, ils peuvent arriver à être débarrassés de la crainte de la mort. On peut lire ça dans le psaume, mais il faut être drôlement inconscient, insouciant et je dirais même un peu stupide. Le psaume 73, il faut que je vous le trouve, voilà, verset 4, où il est dit « Les méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. » Ben oui, parce qu'ils peuvent tous payer, donc pas de problème. Enfin, ils ont des problèmes, mais des problèmes qu'ils règlent avec leur pognon. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes, c'est pourquoi ils se parent d'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau, la violence ou l'arrogance dans d'autres versions. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent, c'est-à-dire que les mauvaises paroles. Hein. Vous savez, ce qui sort de la bouche, ça sort du cœur. Hein. Et c'est des blasphèmes, c'est des horreurs. Ils ricanent et parlent méchamment. Ils profèrent des discours hautains. leur bouche s'attaque au ciel. Ouais, c'est un vrai Dieu, là, là, là. Leur langage balaye la terre, ils sont là en train de lécher, de baver, de dire des idioties. Et puis ensuite, ils meurent, voilà, comme des êtres dépourvus d'intelligence, et ils se réveilleront de l'autre côté, et croyez-moi, là, ça, là, ils vont moins rigoler. Là, ils vont moins rigoler. Se réveille de l'autre côté, ça va être terrible. Mes frères et sœurs, marchez avec Dieu. Croyez ce qu'il dit. Et soyez délivrés de la crainte de la mort pour une bonne et vraie raison. Ne soyez pas délivrés de la crainte de la mort à cause de votre bêtise, de votre endurcissement, de votre péché, de votre orgueil. Mais soyez délivrés de la crainte de la mort pour des vraies et bonnes raisons. La seule bonne vraie raison, c'est que Jésus a eu la totale victoire sur Satan. Paul écrit, afin que par la mort Jésus rende impuissant celui, donc le diable, qui avait le pouvoir de la mort. Alors pour ceux qui sont libérés de cette crainte de la mort, de la mort par Jésus-Christ, Satan n'a plus de pouvoir sur eux. Que je vive ou que je meure, de toute façon c'est pour Dieu, disait l'apôtre Paul, mais c'est pareil pour nous. Satan a été rendu impuissant. Son pouvoir a été brisé à la croix où Jésus a expié. Et ça, c'est vrai, mes frères et sœurs. C'est vrai pour celui qui y croit. Pour ceux qui y croient pas, c'est comme si c'était rien passé. Ils sortiront de leur corps et puis ils se trouveront dans le Sheol, dans l'horreur, dans les ténèbres, dans les regrets, dans l'amertume, dans le... C'est pas encore l'enfer. Enfer, c'est pire, hein, mais se trouveront dans le séjour des morts du mauvais côté. Et Jésus est descendu lui aussi. Il est descendu dans le séjour des morts. On trouve ça dans 1 Pierre 3, 18, 19. Quand il est décédé, il est allé là-bas. Et dans 1 Pierre 4, 6, il nous est dit qu'il a prêché l'évangile là, dans le séjour des morts. Et dans Éphésiens 4, 7, 10, il nous est dit qu'il a fait sortir des captifs, des gens qui étaient captifs dans le séjour des morts, il les a fait sortir et les a emmenés dans les hauteurs, c'est-à-dire dans son paradis. Parce qu'il a prêché l'évangile et ceux qui y ont cru, il les en a sortis. Désormais, Jésus possède les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Apocalypse 1, 18 qui nous dit. C'est-à-dire que maintenant, il fait ce qu'il veut. Il est maître partout, parce qu'il est allé partout, il a expérimenté tout. Et le diable est un menteur qui ment à ceux qui veulent bien l'écouter. Bon, il n'y a pas besoin d'entendre sa voix, hein. Il suffit simplement de ne pas croire ce que la Bible dit. Nous écoutons l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. Tous ces gens qui passent de l'autre côté du voile de leur chair chaque jour, il y en a des millions, hein. Tous ces gens qui meurent, où est-ce qu'ils vont? Et vous, où est-ce que vous irez? Qui croyez-vous? Le menteur, le diable ou Jésus? Moi et ma famille et ma communauté, nous croyons Jésus. Et que nous vivions ou que nous mourions, nous n'avons pas peur, nous savons où nous allons. Jésus est revenu du séjour des morts, et il a expliqué à ses disciples les choses que nous savons. Les gens disent, oui, mais il n'y a jamais personne qui est revenu. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Jésus est revenu d'entre les morts, et il nous a dit ce qu'il y a de l'autre côté. Tout ça, c'est consigné dans ce que nous appelons la Sainte Bible. Vous ne voulez pas la lire. Vous voulez rester dans l'ignorance. Restez-y, puis vous verrez bien. C'est comme ceux qui massacrent, vous savez, les terroristes qui se font sauter au milieu des foules en pensant qu'ils sont agréables à Dieu, puis qu'ils auront des vierges en arrivant là. Mais ils vont être épouvantés quand ils vont arriver de l'autre côté, de constater qu'ils se sont gourés de A à Z. Qu'ils se sont trompés. Qu'ils ont été trompés. Faites bien attention, c'est votre vie éternelle qui est en jeu. C'est pas une affaire de masse, c'est pas une affaire de peuple, c'est une affaire de personne. Où est-ce que vous irez quand vous passerez de l'autre côté de votre voile, c'est-à-dire de l'autre côté de votre chair, quand vous mourrez. Nous savons ces choses parce que le Saint-Esprit qui vit en nous nous confirme que les Saintes Écritures sont vraies. Priez Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, et le Saint-Esprit vous montrera que ce que je vous dis c'est vrai. Si vous ne voulez pas savoir si c'est vrai, ben continuez à vivre comme vous vivez, mais moi je vous aurais dit la vérité. C'est à ça que sert un serviteur de Dieu, c'est à dire la vérité. Alors elle n'est pas agréable peut-être pour vous, mais je ne cherche pas à être agréable. Ce que je veux, c'est que vous sachiez. Amen. Merci Jésus d'aider mes frères et sœurs, et de bénir ceux qui sont là et qui écoutent et qui sont dans le doute encore. Bénis-les alors qu'ils méditent sur ces choses et sur les Saintes Écritures. Que ton esprit les saisisse et les convainque au sujet du péché, au sujet de la vie éternelle, au sujet de toutes ces choses. Je te le demande, Père, dans le nom béni de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir. Écrivez-moi si ça vous plaît de ces études sur les Hébreux. Écrivez-moi et je continuerai. On étudiera tout le livre. Mais écrivez-moi, dites-moi un petit peu. Vous me dites amen, c'est bien, merci. Mais dites-moi ce qui vous intéresse. Voilà, parce que c'est moi. Vous savez, là, je suis en train de parler devant un micro et puis devant les frères et sœurs de ma communauté. Je sais que eux, ils aiment, mais vous. Vous avez été presque 13 000 vendredi passé à écouter le message sur les Hébreux. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-le-moi, que Dieu vous bénisse. Au revoir.